Donc nous poursuivons ce que nous avons dit brièvement hier. Une analyse partielle du plus grand mystère du christianisme. Je dis bien le plus grand mystère parce que Dieu se soit incarné, c'est inimaginable. Qu'il soit devenu homme, c'est incompréhensible. Mais qu'il se soit abaissé à prolonger sa présence sous la forme du pain et du vin, et en même temps sous la forme réalisée par l'amour des hommes, à travers l'amour des hommes entre eux, leur communion. Et qu'en plus de cela, il nous donne la possibilité de voir aujourd'hui, en prémisse, mais réellement, le paradis qu'il nous promet. C'est indicible. C'est le plus grand mystère. Un mystère qui nous est donné de vivre aussi souvent qu'on le veut, tous les jours si on le veut, ou si on le peut, ou tous les dimanches, normalement au moins tous les dimanches. Comment et quelle humilité de sa part, qui est capable de réaliser cela et en même temps de nous laisser le loisir de penser à autre chose, d'avoir un esprit qui vagabonde, d'être inattentif à ce qui se passe. Quand on va voir un spectacle, un théâtre, un opéra, une ciné-scénie ou je ne sais quoi d'autre, on est captivé par par la scène qui est présenté à nos yeux. Mais quand il s'agit de voir la gloire de Dieu, on est par ailleurs. C'est normal, c'est humain, parce que c'est un autre ordre. Donc il n'y a pas à avoir de complexe pour ça. Mais avouez qu'on est quand même bien insensible aux choses spirituelles. Et quand hier nous évoquions justement ce qu'était le péché, pas en opposition, mais en comparaison avec les péchés, voilà notre péché. Cette insensibilité fondamentale qui est devenue la nôtre de pouvoir nous élever à un degré supérieur dans lequel nous sommes pourtant. Donc nous continuons cette analyse. Et j'en profite pour faire un retour en arrière. Vous voulez qu'on soit moderne, on peut faire un flashback, quoi. À la suite d'une question qui m'a été posée parce que j'ai eu une expression qui peut paraître étonnante, je vous ai dit, n'est-ce pas, que vous aviez de la chance, c'est une grâce pour vous, plus exactement, c'est une grâce pour vous si pendant la proscomédie, la proscomédie se passait derrière l'iconostase et que vous ne voyiez rien. Comment est-ce que ça peut être une grâce? Parce que si vous le voyiez, ce serait plus caché. La palisse, je ne redis autant. Je veux dire par là que, étant donné que c'est la préparation, ça évoque, ou ça symbolise, la préparation, toute la préparation invisible dans l'Ancien Testament. Ce n'étaient encore que des figures qui n'ont été comprises qu'à partir où la réalité s'est présentée à nous, ça veut dire à partir de l'incarnation et tout ce qui s'en est, si je puis dire, historiquement suivi. Si donc c'était visible, il n'y aurait plus cette préparation. Donc il suffit et nécessaire que vous sachiez ce qui se passe, que quelque chose se passe, que quelque chose est en gestation derrière l'iconostase pour que vous y participiez et que vous attendiez providentiellement que la manifestation arrive, et la manifestation à partir du moment où la liturgie commence. Béni le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous l'avons dit. C'est en ce sens-là que c'est une grâce. Je vous en supplie, ne prenez pas non plus ces choses, entre guillemets, secrètes, qui ne se voient pas. Ne les voyez pas, comme il plaît à certains, de voir comme si c'était une forme de jalousie du clergé qui voudrait cacher certaines choses. Il ne s'agit pas que ce soit caché et que ce soit pas visible. C'est une nuance importante. C'est pas pareil. Et nous sommes dans un monde où la logique rationnelle domine dramatiquement. Il n'y a plus que cela auquel on se raccroche. Et à cause de cela, les autres états d'être, on ne les sent pas, on ne les perçoit pas. Et un mouvement, à chaque époque, il y a eu des mouvements comme ça, à chaque époque de l'histoire de l'Église, des mouvements rationalistes ont voulu rendre plus sensibles les réalités qui étaient véhiculées, transmises par l'Église à travers ses rites, à travers ses prières, à travers ses conceptions théologiques. Et à chaque fois, ça a été l'origine de ce qu'on appelle précisément une hérésie. Et notre Occident, par exemple, depuis plus de 1000 ans, est tombé dans l'errance, en partie, mais réellement et gravement, parce que justement, on a essayé, notamment à cause de ce sacré Charlemagne, non seulement parce qu'il a inventé l'école, mais aussi pour d'autres, parce qu'il a inventé une belle hérésie, dont on souffre encore aujourd'hui, et avant, précédé par d'autres mouvements rationalistes qui ont essayé justement de donner une explication rationnelle à la théologie, et pas toujours avec un cœur pur, quelquefois par esprit diplomatique ou apologétique, pour essayer d'avoir une domination sur le reste de l'Église. L'humanisme, dans ce sens-là, le rationalisme, amène toujours à une forme de... est toujours le résultat, à la fois le résultat, et suscite la passion de la domination, du pouvoir. Et ceci, c'est la mort, j'allais dire la mort de l'Église. C'est pas ça qui tue l'Église, mais c'est ça qui grève, qui paralyse l'Église et qui amène à la perte des hommes. Ce sont des mouvements que nous trouvons à notre époque, à l'époque contemporaine, dans les essais de réforme liturgique. Soi-disant pour simplifier, soi-disant pour que, par exemple, on va laisser les portes de l'iconostase ouvertes pour que les fidèles voient mieux. Et oui, mais s'ils voient, il n'y a plus donc rien d'invisible. Où est le sacré? Comment peuvent-ils percevoir l'invisible? On n'a plus soif de voir ce qu'il y a derrière. Il ne s'agit pas d'être jaloux, mais il faut avoir cette soif de voir. Pas simplement de savoir, je suis en train de vous l'expliquer aujourd'hui, hier et aujourd'hui, pas savoir simplement qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. Mais il y a un mystère de toute manière que personne ne verra, les prêtres ne voient pas davantage dans l'Église, dans le sanctuaire, je veux dire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit rien de plus que vous. On voit des gestes, on voit des couleurs, mais qu'est-ce que ça amène? Je vous promets, ça ne nous amène rien. Sauf cette danse, cette harmonie, cette collaboration, on appelle ça chez nous la communion. Cette communion qu'il y a entre tous les membres de l'Église réunie et de toutes les Églises entre elles. Donc, ne cherchons pas à... Aujourd'hui, j'essaie de vous ouvrir quelques aspects de la liturgie pour mettre un peu d'enthousiasme et que nous sachions ce qui se passe et comprendre les choses. Mais l'essentiel nous demeure invisible et simplement perceptible par la foi. Ça vous fait une belle découverte quand vous savez que la fumée d'encens représente la prière, notre prière qui s'élève vers le ciel, que l'encens sent bon parce que c'est une purification, que c'est une offrande que nous offrons, et d'autres choses encore dont nous avons parlé hier. Maintenant qu'on le sait, c'est bien de le savoir. Quand vous êtes encensé ou quand vous encensez, vous pouvez en avoir conscience. Mais la réalité, elle n'a pas changé. La réalité est toujours la même. Il est indispensable de savoir que le pain et le vin deviennent de fait corps et sang du Christ. Mais comment ça se passe? Ou à quel moment ça se passe? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est, j'allais dire, je ne veux pas faire d'hérésie, mais c'est notre foi qui supplée à cela. C'est notre foi qui peut nous faire percevoir un aspect de la réalité qui est justement n'est pas de l'ordre rationnel, mais d'un autre ordre, un ordre réel, perceptible simplement par un organe dont Dieu nous a doté, c'est-à-dire le cœur, au sens de l'âme, si vous voulez, le cœur intérieur. De même que on a tous une vie intellectuelle plus ou moins développée, mais on a tous une vie intellectuelle. On a tous une vie affective, plus ou moins développée, quelquefois pervertie même éventuellement, mais elle existe tout de même. On a tous un sens du beau ou du moche, mais c'est la même chose, mais inversé. Mais on a tous un sens de la beauté, parce qu'on a une faculté dont Dieu nous a dotés, et nous avons une autre faculté, c'est la faculté spirituelle. Nous avons la faculté de vivre ces choses-là, et c'est cela qu'il faut développer. Et tout le monde, dès les petits enfants, les plus petits qui sont avec nous aujourd'hui, qui viennent à l'église, tous participent à la liturgie. Chacun à leur manière. On ne va pas leur demander à nos enfants d'un an, on ne va pas leur demander la théologie de l'encens ou des icônes ou de la transformation de la matière en corps et sang de Christ. Mais ils y participent. Ils le vivent. Et à nos niveaux, même si intellectuellement, on est peut-être un petit peu plus développé qu'eux, ça ne change rien. Chacun le vit à notre niveau. Mais il faut développer ce niveau de la foi et rejeter, non pas par intégrisme, non pas par nostalgie du passé, mais il faut rejeter les nouveautés qui nous font édulcorer, qui nous font abaisser, qui nous font douter de ce qui est mis sous nos yeux. Si pendant, en gros 2000 ans, si vous voulez, si pendant 2000 ans, les hommes de foi ont pu se repaître de la vie éternelle à travers les signes qui sont donnés à travers la liturgie, comment nous, on pourrait effacer ça d'un revers de main, ou même le modifier simplement, sans que ça nous crée de graves préjudices. On n'invente pas un christianisme au XXIe siècle. Le christianisme, il a été inventé il y a 20 siècles. Et la foi, notre foi, elle repose précisément sur le témoignage, de ceux qui nous ont précédés. Comment sait-on que nous sommes dans la vérité ? C'est parce que nous avons le témoignage du Christ qui sait de quoi il parlait, puisqu'il était à la fois Dieu et à la fois homme. Et il a appuyé son témoignage sur non seulement ses révélations personnelles, mais sur les figures de l'Ancien Testament. Et on voyait de cette manière-là, il montrait comment sa venue était attendue et n'arrivait pas comme ça, paf, tout d'un coup, par une révélation si extraordinaire soit-elle. Et puis après, les apôtres ont porté le même témoignage. On a vu telle chose, on a vu ce qu'a fait le Christ, on a vu comment il était à la fois Dieu et à la fois homme. Il avait un peu de mal à nous l'expliquer d'ailleurs. Il a fallu qu'un saint Paul après arrive avec des révélations directes du Christ qui lui a montré, comme il l'avait fait déjà aux disciples d'Emmaüs et à d'autres, la signification de tout ce qu'il concernait dans les Saintes Écritures. Et puis après, ils l'ont transmis aux églises locales qu'ils ont fondées et dont leur chef, si je peux les appeler comme ça, ont été nommés les pères de l'Église. Et les pères de l'Église ont témoigné de la même foi qu'ils ont été du témoignage et toute la foi de notre Église repose sur cette transmission du témoignage. Et un témoignage ne se modifie pas, un témoignage s'approfondit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et le témoignage c'est aussi à travers les rites, si vous voulez, à travers la liturgie. Et ce n'est pas en les changeant, en les modifiant, qu'on peut mieux comprendre. En revanche, on peut les développer, les expliciter, et mieux les comprendre, mieux les assimiler. Et là, à ce niveau-là, à ce point de vue-là, je veux dire, le Saint-Esprit n'a pas soufflé un jour dans l'Église, le jour de la Pentecôte, et depuis ce temps-là, ce serait au chômage technique, mais au contraire, depuis la Pentecôte, il ne cesse de souffler, et c'est ainsi qu'il permet à l'Église, de siècle en siècle, d'approfondir davantage la signification du témoignage que nous avions reçu. Ceci dit, pour ne pas entrer dans cette forme de modernisme qui consisterait à vouloir changer les choses. Peut-être qu'au lieu de faire des grandes métanies, il serait mieux de faire de la position du lotus ou du grand pan du yoga, peut-être. Peut-être que ça pourrait davantage se concentrer, peut-être. Mais ça risquerait de nous apporter d'autres choses que ce que l'on cherche dans les saints mystères. Faisant fi donc de toute réforme intempestive, nous en arrivions dans notre explication nous avions proclamé le Trisagion, Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, et nous en étions au début de la lecture des saintes Écritures. C'était l'apothéose, la fin. L'aboutissement de toute la liturgie de la parole qui correspondait en gros, si je puis le schématiser ainsi, à la liturgie, à la pratique de la synagogue pour les juifs qui étudiaient les Saintes Écritures et les commentaient. Et là, nous, les Saintes Écritures s'achèvent par l'Évangile qui est la révélation par excellence, puisqu'elle est la révélation mystique, non seulement historique, mais de ce qu'est venu faire le Christ sur terre, et même la révélation de qui il est. Certains ont montré que d'être après, quand on lit par exemple, ou quand on prie plus exactement, avec le Notre Père, c'est une authentique révélation, pas simplement l'apprentissage d'une forme de prière, mais que c'est la révélation de qui est Dieu, de qui est l'homme, et quelle est la relation qui existe entre Dieu et l'homme et tout le cosmos. Je n'insiste pas plus sur les lectures, sinon on devrait essayer de lire toutes les épîtres, toutes les évangiles de chaque jour de l'année. Comme vous n'avez pas l'air d'avoir envie d'y passer plus de 3 heures, je vais abréger là-dessus. Cette partie-là s'achève par une nouvelle grande ecténie. Accomplissons notre prière au Seigneur pour que nous soyons délivrés de ta affliction, etc. De nouveau, on reprend les besoins, les demandes fondamentales des membres de la communauté et à travers eux, des membres même de ceux qui sont en dehors de la communauté, mais à travers eux. Demandons au Seigneur d'achever le temps restant de notre vie et le repentir, etc., etc. Vous l'avez entendu ce matin, vous devez encore l'avoir par cœur dans le cœur, je n'ai pas besoin de vous le répéter. Et puis, je crois que j'ai passé un chapitre. Vous avez, il y a trois ecténies. On prie pour les catéchumènes, parce qu'on les intègre. Ils commencent à être intégrés dans l'Église, mais juste après, on va les renvoyer, je l'ai aussi évoqué, on va les renvoyer à les catéchumènes, les pêcheurs publics, et évidemment ceux qui ne sont pas du tout initiés au christianisme. C'est la raison pour laquelle, alors que nous ne le faisons plus jamais, il y avait ce qu'on appelle le renvoi des catéchumènes, retirez-vous, catéchumènes, retirez-vous, tous les catéchumènes, retirez-vous, aucun catéchumène ici. Et aussitôt après, ou presque, aussitôt après, nous les fidèles, donc à ce moment-là, on estime que les catéchumènes sont sortis, et nous les fidèles, encore et sans cesse, nous prions au Seigneur. Et là, on change de type de liturgie, si vous voulez. Ce n'est plus la liturgie de la parole, c'est véritablement la liturgie eucharistique réservée aux membres de l'Église, aux croyants. Et c'est à ce moment-là que commence le cœur commence l'hymne des chérubins. Après toute cette préparation dont nous avons parlé hier, après toute cette préparation, nous arrivons dans le vif du sujet. La barrière infranchissable entre le ciel et la terre, qui nous rend invisible au ciel, est en train de se déchirer. Et maintenant, nous commençons à entreapercevoir la réalité qui est plongée sous les yeux de notre foi, à savoir l'Apocalypse, à savoir la vision du royaume des cieux. Et c'est pour cela que nous sentons en communion, comme nous l'avons déjà évoqué au moment de la petite entrée, fait qu'avec notre entrée se fasse aussi l'entrée de l'ange saint, disait le prêtre pendant la petite entrée. Maintenant, dans le cœur, on chante, nous qui mystiquement figurons les chérubins et chantons l'hymne trois fois sainte, voyez encore le trisagion, à la vivificatrice Trinité, déposons tout souci de cette vie. Nous qui mystiquement figurons les chérubins, c'est-à-dire que on ne les figure pas dans l'imagination, mais on est vraiment l'icône des chérubins, c'est-à-dire que on est nous-mêmes en union, en harmonie, pas simplement en harmonie, mais on représente sur la terre ce que sont et font les chérubins dans le royaume des cieux, mais pas simplement par imitation, mais par communion avec eux. Nous vivons le même mystère, eux et nous. C'est pour ça que c'est nous qui, mystiquement, pour des questions musicales, souvent on dit « nous qui, dans ce mystère, représentons ». La signification est la même. La signification profonde, c'est ça. C'est nous qui, sacramentellement, mais sacramentellement, ne répond pas tout à fait bien à la définition. C'est vraiment le sommet des facultés humaines d'être capable mystiquement d'accomplir un acte qui n'est pas un acte humain, mais qui est un acte divin répercuté par les hommes. Nous qui donc figurons, sommes l'icône des chérubins et chantons, j'ajoute entre eux, avec eux, pour la facilité de l'explication, l'hymne trois fois sainte, donc le trisagion, à la vivificatrice Trinité. Déposons tout souci de cette vie. Les soucis de cette vie, n'allons pas encore l'entendre uniquement comme les soucis de la voiture que j'ai laissée sur le parking et que j'ai oublié de fermer à clé, ni les soucis des impôts qui me sont tombés dessus et que je ne sais pas comment je vais pouvoir payer, ou les soucis du chômage qui prend fin et que je ne vais pas pouvoir... Enfin bref, ce n'est pas uniquement ce genre de soucis-là. C'est tout souci de cette vie. C'est-à-dire que nous devons, ou nous devrions, lorsque nous chantons ça, ne plus avoir conscience de ce que nous vivons sur terre, mais être uniquement, exclusivement présent avec ce qui se passe, justement, avec les chérubins et les séraphins dans le royaume des cieux, illuminé par la gloire de Dieu. C'est cela qu'il faut déposer. Mais comme le déposons pas, comme nous sommes sur terre, si notre cœur est au ciel, nos pieds sont encore sur terre. Donc, en même temps, cette vision, cet acte de foi qui est le nôtre, se répercute dans le monde entier. Donc, on dépose tous les soucis, mais on les porte. C'est-à-dire qu'on dépose tous les soucis, mais on porte le monde. Et c'est notre manière, suscitée par l'Esprit-Saint, de transfigurer le monde. Pendant ce temps-là, les prêtres disent, ce que vous n'entendez probablement pas, une prière que je vais vous lire plus ou moins intégralement, qui est une prière mystique à laquelle vous associez par l'hymne des chérubins. Aucun de ceux qui sont attachés des convoitises ou des voluptés charnelles n'est digne de venir à toi. C'est la manifestation, la confession de l'humilité de notre condition pécheresse. Ceux qui sont attachés par des convoitises et voluptés charnelles n'allaient pas entendre que les voluptés charnelles sont les tentations sensuelles, si vous voulez. Et les convoitises, ce n'est pas la convoitise des biens. Non. C'est tout simplement la convoitise de l'utilisation, de la jouissance, de la complaisance avec ce monde dans lequel nous sommes. Quand je parle de ce monde, je ne parle pas d'un monde politique ou économique, mais de notre condition humaine dans laquelle nous sommes. Voilà ce que sont les convoitises et les voluptés charnelles. Donc si on est attaché à tout ça, contrairement à ce que le cœur est en train de chanter, déposons tout souci de cette vie, personne ne peut s'approcher du roi de la gloire. Et pour les célébrants, ils ajoutent, car te servir est grand et redoutable, même pour les puissances célestes. On a des textes dans les canons de certaines fêtes où on voit l'étonnement c'est une manière poétique, évidemment, d'exprimer une réalité spirituelle inexplicable. On voit l'étonnement des chérubins et des séraphins qui sont si proches de Dieu, qu'ils baignent dans sa gloire et qui sont étonnés du mystère où ils voient Dieu lui-même, auquel ils vouent toute leur vie, si je peux l'appeler comme ça, toute leur existence plutôt, à cette gloire de Dieu, et qu'ils voient ce Dieu qui se dépouille de sa gloire pour venir se faire homme déchu, de manière à être mal reçu, comme nous le savons, par ces mêmes hommes qu'il vient sauver, et pourtant de les prendre avec lui pour les emmener jusqu'en dans le royaume des cieux. Même pour les anges, c'est incompréhensible. Ce qui montre l'extraordinaire humilité de notre Dieu, et c'est là sa grandeur la plus sublime, cette humilité-là. Et justement, on ajoute, et pourtant, à cause de ton indicible et incommensurable philanthropie, amour pour les hommes, tu t'es fait homme sans changement, ni altération, c'est-à-dire, tu n'as pas abandonné ta divinité, mais tu l'as mise, si je puis dire, entre parenthèses, tu l'as mise en sommeil, tu as refusé d'en utiliser les effets glorieux, et tu t'es révélé, notre grand prêtre et maître de tout, tu nous as légué, comme un testament, la célébration de ce sacrifice liturgique et non sanglant. C'est-à-dire qu'il nous lègue quelque chose, c'est lui le seul grand prêtre. Et à notre, il nous transmet le pouvoir de le remplacer, en quelque sorte, visiblement sur terre, et de prolonger sa vie ici. Car toi seul, Seigneur notre Dieu, tu maîtrises ce qui est céleste et terrestre. Toi qui es porté sur un trône de chérubins, toi le Seigneur des Séraphins et le Roi d'Israël, c'est une confession de ce qu'on est en train de commencer à apercevoir. Le seul saint qui repose dans les saints sur lesquels repose Dieu, c'est à la fois les trônes, les illuminations, les puissances célestes, mais c'est aussi les saints qui sont sur cette terre, c'est-à-dire vous et nous, qui portons, comme les chérubins, le trône de gloire dans nos cœurs. Abaisse ton regard sur moi, ton serviteur pécheur et inutile, dit le prêtre. Purifie mon âme et mon cœur de toute conscience mauvaise. C'est-à-dire que comme je ne suis pas capable tout seul de me dépouiller de tout souci de cette vie, toi, dépouille-moi de cela par ton Esprit Saint. Moi qui suis revêtu de la grâce et Zados, à me tenir devant la sainte table que voici et de célébrer le sacrifice de ton corps saint et immaculé et de ton sang précieux. Et après cette confession d'indignité, d'impuissance du prêtre, conscient tout de même de la mission que Dieu lui donne, je m'avance vers toi, presque par obéissance, et inclinant la nuque et je te prie, ne détourne pas de moi ta face, ne me rejette pas du nombre des enfants, mais rends-moi digne pécheur et indigne serviteur que je suis de t'offrir ces dons, car c'est toi qui offres et qui es offert. Ça, c'est important. C'est Dieu lui-même qui offre. C'est Christ qui offre et qui est offert. Il est le sacrificateur et le sacrifié, qui reçoit et qui distribue. Et nous te rendons gloire avec ton Père sans commencement et ton Esprit très saint, bon et efficateur. Et cette parole qu'on dit secrète, parce qu'on ne les entend pas, elles ne sont pas secrètes parce qu'elles sont cachées, elles ne voudraient pas qu'elles ne soient connues, mais parce qu'elles ne concernent pas tout le monde, elles concernent le célébrant. C'est le célébrant qui demande l'appui de l'Esprit Saint pour accomplir quelque chose qui est tellement immense qu'il sait qu'il n'est pas capable, qu'il n'a pas il n'a pas par lui-même le pouvoir de le faire, si ce n'est de s'associer au sacrifice de celui qui lui donne la mission de le faire. Mais en même temps, vous chantez, vous donc, nous qui mystiquement figurons les chérubins, vous par votre chant, et le chant est une icône, le chant c'est une transfiguration de la parole. Les anges dans le ciel chantent. Voilà pourquoi il est catastrophique que dans notre époque on ne chante plus. Tout chant est une manifestation de la beauté, une manifestation de la parole de Dieu. Et votre ministère consiste à accompagner le célébrant ou les célébrants qui prononcent cette vive, cette parole, cette prière extrêmement profonde, de l'accompagner par votre chant, par votre allégresse, par votre admiration devant le mystère qui est en train de s'accomplir et qui va s'accomplir sous vos yeux. À la suite de quoi, après s'être inclinés mutuellement les uns vers les autres, quand ils sont plusieurs célébrants, les célébrants s'inclinent vers le peuple au nom duquel ils accomplissent le mystère qui est en train de s'accomplir. C'est toujours cette harmonie, cette collaboration des uns avec les autres. Ils s'inclinent devant les fidèles, et non, pardonne à ceux qui nous aiment et à ceux qui nous haïssent. C'est-à-dire, reconstituons cette harmonie d'amour qui doit régner, qui règne entre tous les hommes, oubliant toutes nos oppositions, même humainement parlant, légitimes. Et on se dirige vers la prose comédie, vers la prothèse, l'hôtel de la prothèse. Et là, le prêtre, s'il est tout seul, prend le discos et le calice. S'il a un concélébrant, il y en a un qui prend le discos et l'autre le calice. Et s'il y a un diacre, le diacre prend le discos et le prêtre le... Rappelez-vous que la prose comédie s'était achevée symboliquement par la représentation de la nativité du Christ dans la grotte de Bethléem avec l'astérisque, n'est-ce pas, qui est posée au-dessus des saints dons. On revient à la prothèse, on revient à l'acte liturgique qui avait précédé une demi-heure avant, et on reprend là où s'en était resté le calice et le discos, et là, par une procession triomphale que j'ai évoquée, je ne sais plus à quel sujet hier déjà, cette grande procession triomphale de la grande entrée, avec qui symbolise, si vous voulez, l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem pour être intronisé dans le trône, dans le temple de Jérusalem. Et là, il est déposé sur l'autel qui, dans cet acte liturgique qui dépasse le temps et la chronologie, non seulement il est déposé sur l'autel, mais en fait, l'autel représente à ce moment-là véritablement le tombeau du Christ dans lequel il est enfoui. Raison pour laquelle, immédiatement après, on ferme, dès la fin de la procession, on ferme le rideau et les portes. Les portes du tombeau sont fermées. La pierre est scellée. Et d'ailleurs, le prêtre prend le voile, l'air qu'il avait mis sur ses épaules pour une question pratique, pas exclusivement pratique d'ailleurs, symbolique aussi, qu'il avait mis sur ses épaules pour pouvoir prendre le discos et le calice qui étaient unifiés par l'air. Il prend l'air sur les épaules, et à ce moment-là, puisque c'est l'entrée, ça évoque l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, le port de l'air sur les épaules du prêtre du diacre représente le Christ juché sur l'annon. Excusez-moi, mes frères concélébrants, je ne peux pas vous insulter, mais nous représentons l'âne, effectivement, qui portait le Christ, et c'est tout un honneur. Et donc, une fois les portes et rideaux fermés du tombeau du Christ, on prend l'air, on le remplit d'encens, c'est-à-dire on l'approche de l'encensoir fumant, avec ses paroles, au tombeau avec ton corps, le noble Joseph, ayant descendu de la croix ton corps immaculé, l'oignit d'aromates, l'enveloppa dans un linceul, et à ce moment-là on met l'air sur le calice et le discos, et le déposa dans un tombeau tout neuf. Vous voyez, là, c'est pas un mime, mais c'est vraiment une évocation prégnante de tout le résumé de la fin de la vie terrestre du Christ. procession triomphale acclamée par les enfants des Hébreux que les fidèles représentent par leur chant. D'ailleurs, alors que les enfants des Hébreux chantaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, c'est ça. Dans le cœur, vous chantez pour accueillir le roi de toutes choses, invisiblement escorté par les anges angéliques. C'était le même mouvement. Les enfants des Hébreux accueillaient le roi de la gloire, et nous accueillons sur terre le roi de la gloire, comme les anges escortent aussi ce même roi de gloire. Et il n'y en a pas deux, c'est bien le même. Donc nous sommes ici et là. Nous sommes sur terre et nous sommes dans le royaume des cieux avec eux. Passons un petit peu, juste une ecténie. Et à ce moment-là, après cette ecténie, le prêtre, c'est-à-dire une prière universelle, demandons au Seigneur et on répond, accorde le Seigneur. Le prêtre se retourne et dit, ou l'évêque, si l'évêque est là, et dit, paix à vous tous, aimons-nous les uns les autres, afin que dans un même esprit nous confessions, et vous répondez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va de moments essentiels à moments essentiels. Il n'y a que des moments essentiels dans la liturgie. Mais le paix à vous tous, c'est le don et la réception de la paix telle que Dieu la donne. C'est-à-dire la paix de la réconciliation des hommes, de moi-même avec Dieu et de moi-même avec mes frères et de mes frères entre eux. C'est la réconciliation générale. D'ailleurs, on continue avec le « aimons-nous les uns les autres, afin que dans un même esprit nous confessions ». L'amour, le Christ l'a montré comme, nous y a engagé, comme l'a évoqué, l'a écrit Saint Jean dans l'Évangile et tous les membres de toute la tradition de l'Église par la suite. Dieu est amour, Dieu est lumière. Donc, si l'on veut accéder à la mission que Dieu nous a donnée d'être unis à lui dans le ciel, il faut donc nous aimer les uns les autres. Et l'amour les uns les autres est réel. Ce n'est pas un amour affectif, mais c'est un amour beaucoup plus profond que l'amour affectif. Une sensation, le terme n'est pas juste, mais un élan intérieur de communion profonde avec ce que l'autre et les autres vivent. Et eux avec moi. C'est ça, la conscience de ce qui nous unit, et ce qui nous unit, c'est le corps du Christ. Et puisque le corps du Christ nous unit, et que les autres sont membres du corps du Christ, je ne peux qu'être uni avec eux. Je l'exprime mal, mais cette communion d'amour dans l'Église, à condition de ne pas prendre comme d'une manière affective, c'est peut-être la chose la plus profonde, parce que c'est cet amour-là qui nous rend à l'image de Dieu. Dieu est trinitaire, n'est-ce pas ? Un seul Dieu en trois personnes. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons réaliser, ou nous réalisons, grâce à l'Esprit Saint qu'il réalise en nous manifestons cette union aussi de milliards de personnes en un seul être, unis par l'amour. Et l'amour, c'est le Christ, et l'Esprit Saint, et le Père. Donc là se résume, se concentre toute la réalité de notre relation avec Dieu. Et c'est tellement important que la tradition de l'Église nous fait dire « Aimons-nous les uns les autres, afin que dans un même esprit nous confessions. » Il n'y a pas de confession possible de la gloire de Dieu, de l'existence de Dieu. Il n'y a pas de manifestation de l'amour de Dieu si préalablement il n'y a pas l'amour qui règne entre nous. C'est pour cela que la chose la plus importante à réaliser lorsque l'on veut communier à la Sainte Eucharistie, c'est de nous réconcilier tous les uns avec les autres, dans la mesure des possibilités physiques. Je ne vous dis pas d'aller faire le tour de la terre pour aller demander pardon à votre belle-mère que vous aviez, qui est enterrée aux antipodes, mais qui est à l'intérieur de nous-mêmes, ce pardon total, total, sans ombre, de tout ce qu'on aurait peut-être éventuellement à pardonner. Et à ce moment-là, ce mystère d'amour commun en Christ les uns nous permet non seulement de dire, mais de réaliser, de témoigner aux yeux du monde notre foi exprimée à travers le « Je crois en Dieu » de Nicée-Constantinople, « Je crois en Dieu Père Tout-Puissant » et en Fils unique, et en l'Esprit Saint, et en un seul baptême, et en l'Église. N'escamontons pas, je ne fais pas l'analyse du credo là aujourd'hui, mais n'escamontons pas la dernière partie, et en l'Église une, sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés, j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. N'oublions pas ça, la foi en l'Église, c'est peut-être, à l'époque contemporaine encore, c'est peut-être un des points faibles de notre confession de foi. De fait, on le croit, personne n'en doute, ou presque. Mais on n'a pas conscience de ce qu'est l'Église. On n'a pas conscience de l'unité de ce corps du Christ que nous sommes. D'où toutes les divisions, toutes les querelles, toutes les incompréhensions, tous les drames que l'on trouve dans l'Église, parce qu'on n'a pas conscience de l'Église. On a notre foi, mais on n'adhère pas à la foi à la foi et à la pratique, à la tradition, un très grand T, si vous voulez, hein, de l'Église. Il faut réfléchir à ça. Là, l'Église n'est pas fautive, mais nous sommes fautifs de ne pas avoir le sens de l'Église. Pourquoi ? Parce que nous avons cet aspect rationnel en nous, où chacun veut vivre sa foi, sa sensibilité, s'exprimer, comprendre. C'est toujours le rationalisme dont je parlais tout à l'heure, qui nous fait nous écarter du sens de l'Église. Et toutes les querelles, toutes les oppositions, toutes les hérésies et tous les schismes dans l'Église jusqu'à notre époque contemporaine tirent leur racine, prennent leur racine dans cette incompréhension orgueilleuse de ce qu'est l'Église. Ayant ainsi exprimé notre foi et manifesté notre foi, j'ai un trou de mémoire dans la le baiser de paix, c'est pas dans le credo, hein. Entre les prêtres, le baiser de paix, c'est pas dans le credo.
Oui,
c'est pendant le credo. Pendant que l'on chante le credo, les prêtres et les prêtres et les diacres, ou les prêtres seuls.
Non, les diacres, c'est avoir la communion.
Merci. Se donnent le baiser de paix, c'est-à-dire une accolade, une triple accolade. En disant le Christ au milieu de nous, il le sera. Et ce baiser de paix était jadis dans l'Église entre toutes les personnes de la communauté. Généralement, les hommes entre eux et les femmes entre elles. Maintenant, c'est réduit simplement au clergé dans le sanctuaire. Pour une raison toute simple, c'est que le même humanisme que j'ai condamné tout à l'heure a fait naître beaucoup de déviations dans ce baiser de paix. Je n'ai pas besoin de vous donner d'explications. On y prenait un malin au sens diabolique, plaisir. Et l'Église a dû mettre un terme, comme au repas festif qui suivait la liturgie, normalement, aux agapes, on a dû y mettre un frein dès l'époque de Saint-Paul, dès ce moment-là, parce qu'il y avait des abus. Et c'est comme ça que maintenant, le baiser de paix est resté cantonné dans le sanctuaire. Mais il est important, parce qu'il manifeste entre les membres du presbytérium, entre les membres du clergé célébrant, cette union qui symbolise l'union de tous les hommes qu'on vient de proclamer à travers le credo. Et ce baiser de paix, en revanche, est maintenu dans la tradition de l'Église à deux autres reprises. D'une part, le dimanche soir du pardon, après nous être demandé mutuellement pardon, on s'embrasse tous les uns les autres. Mais c'est un réel pardon, donc une satisfaction au sens profond du terme des retrouvailles de notre communion les uns avec les autres, et c'est pour cela qu'on s'embrasse. Ce qui nécessite le pardon. Mais c'est dans un esprit de repentir, ce qui doit exister toujours de toute manière. J'ai fait remarquer ce matin, vous savez, à quelqu'un que dans les choses d'église, dans la liturgie, notamment dans la liturgie, il ne faut pas, ce sera encore une forme de rationalisme, il ne faut pas s'arrêter à la chronologie. Il faut prendre de la hauteur. Et quelle hauteur, puisque nous sommes dans les cieux. Il faut prendre de la hauteur et voir tout comme un ensemble. Il n'y a pas une chronologie où on va faire tel rite, ça va être le signe de telle chose, et puis après le signe d'autre chose, et avec une progression comme ça. C'est tout un ensemble. Par exemple, je le prenais dans la conversation, par exemple, dans notre monde latin depuis l'époque de Thomas d'Aquin notamment, on estime que c'est au moment où le prêtre prend le pain, le bénit, le sanctifie et dit « ceci est mon corps » et qui fait la même chose, sauf la rupture, avec le vin en disant « ceci est mon sang », ils estiment que c'est ça qui fait que le pain et le vin deviennent, se transforment, changent de substance en devenant corps et sang du Christ. Pour nous, il n'y a aucun moment comme ça. C'est pas qu'on ne le sache pas, c'est que c'est hors du temps.
Même à l'épiclèse.
S'il y a un moment privilégié, c'est lorsque l'évêque ou le prêtre implore l'Esprit Saint de descendre et que lui, pas le prêtre, mais que lui fasse de ce pain le corps du Christ et de ce vin le sang du Christ. Donc c'est peut-être ça le moment privilégié. Mais personne ne peut dire, et il ne faudrait surtout pas dire, que c'est ce moment-là où le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. C'est toute la liturgie. Toute la liturgie qui est... C'est un mouvement. Un mouvement qui dépasse le temps, qui est dans le temps, mais qui le dépasse. Donc il n'y a pas... La chronologie ne compte pas. Et dans notre conscience profonde, il faut englober tout cela. Et c'est ainsi qu'on fait l'expérience vraiment de la vie éternelle. Sur Terre, tout est vécu d'une manière chronologique, où il y a un passé, un présent qui est presque une abstraction, c'est même pas un instant. Le présent, c'est le passage du passé à l'avenir. Mais c'est quoi ? Et pourtant, ça a une réalité. dans la vie éternelle, c'est un temps supérieur au temps où on englobe tout ça à la fois. On est présent au début et à la fin, et pour cause, puisque nous sommes le corps de Christ qui est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il englobe tout, et nous sommes avec, donc nous englobons tout. Et sans faire sans faire travailler notre imagination, il faut avoir conscience dans la liturgie que nous sommes dans ce temps hors du temps. Le temps auquel le diacre nous initiait au début de la liturgie, c'est le temps d'agir pour le Seigneur, disait le diacre juste avant les prières d'introduction à la liturgie. Pourquoi je me suis mis à parler du temps ?
À propos du changement du pain et du vin au corps et sang du Christ,
voilà.
Qui est hors du temps.
Hors du temps, merci. Donc le baiser de paix et le credo étant passés, on arrive dans la partie qu'on appelle l'anaphore. C'est la partie essentielle de la liturgie. Sachez qu'aujourd'hui, à notre époque, je veux dire, dans l'Église contemporaine, il n'y a plus que deux ou trois anaphores. Il y a l'anaphore de Saint Jean Chrysostome, que nous célébrons habituellement en semaine et les dimanches ordinaires. Il y a l'anaphore de Saint Basile, que vous avez entendu aujourd'hui, que l'on célèbre les dimanches de carême et quelques autres jours de l'année, les veilles de grandes fêtes comme Noël, faut dire ce que c'est que les parémies, les veilles de grandes fêtes. Il y a encore l'anaphore de Saint-Jacques, qui est très rarement célébrée, parce qu'elle est très particulière et difficile à célébrer, et nos églises ne s'y prêtent pas, mais le jour de Saint-Jacques... Quelques-uns la célèbrent. À Jérusalem, elle est toujours célébrée au moins une fois par an. Il y a d'ailleurs, à côté de l'église de la Dormition, à Jérusalem, sur le mont Sion, il y a, dans un champ de détritus, il y a un muret haut comme la table, avec des grilles pour empêcher au moins qu'on ne s'y aventure. Et un escalier qui descend dans une grotte qui est l'entrée d'une catacombe. Je ne sais pas ce que c'est comme catacombe. Est-ce que c'est simplement une grotte? Est-ce qu'il y a des ramifications? Est-ce qu'il y a des tombeaux? Je ne sais pas, ça a l'air mystérieux. Mais en contrebas, il y a encore un endroit où on sait, avec un autel, où on sait que la Saint-Jacques y célébrait sa liturgie. C'est pas beau. C'est... abandonné, il est pratiquement interdit d'y aller, sauf permission exceptionnelle. Mais le premier réveil de Jérusalem, frère du Seigneur, a célébré la liturgie là. On sent encore sa présence. Si on était attentif, on entendrait encore le chant des paléo-chrétiens, des premiers chrétiens qui chanteraient cette liturgie, que pour ma part, j'ai vu célébrer une fois simplement. Et pas dans cette grotte-là, hélas, bien sûr. Mais on est dérouté quand on la voit célébrer. Ça ne ressemble pas du tout à la liturgie de Saint-Jean Chrysostome. Je ne peux pas vous l'expliquer d'ailleurs, parce que je ne la connais pas. Je la connais pas suffisamment. Et il me semble que j'ai assez de matière aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de rajouter encore. Donc, tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. La première signification de ça, soyons attentifs à offrir la Sainte Oblation. C'est évidemment de continuer la lancée tout à l'heure, déposons tous les soucis, tenons bien, donc soyons attentifs. Mais là encore, il y a une autre dimension, c'est un autre état de compréhension. Soyons attentifs, c'était ce que disait l'archange Michel. Ce qu'il dit éternellement aux anges restés fidèles à Dieu par opposition à ceux qui se rebellaient, donc ceux qui sont devenus les démons. Et à notre tour, avec Saint Michel, nous disons, soyons attentifs à offrir en paix la Sainte Oblation. Si on n'est pas attentif, et je ne dis pas attentif psychologiquement, mais attentif dans notre cœur, si on n'est pas bouche bée devant le mystère qui va s'accomplir et qu'on commence à voir se réaliser, qu'on commence, mais comme je vous disais tout à l'heure, que comme on englobe tout le temps, c'est pas que ça commence, ça continue, on est dedans en permanence. Eh bien, devant ce mystère-là, non seulement on a déposé tous les soucis de cette vie, mais on est en attente, en admiration, on reste quoi devant le mystère qui s'accomplit. Et d'ailleurs, le prêtre continue par « élevons nos cœurs ». Élevons, c'est-à-dire élevons-nous, pas pour avoir des bonnes pensées, des pensées pieuses, et tout ça, mais élevons nos cœurs, passons de terre au ciel, changeons d'état. C'est l'état dans lequel nous vivons réellement. C'est pas une image, c'est pas une expression poétique, c'est pas une injonction pour dire essayer d'avoir de meilleures pensées. Et la conclusion de ça, si on l'accomplit autant que faire se peut, rendons grâce à Dieu parce que finalement, quand on est bouche bée comme ça devant le mystère qui s'accomplit, la seule chose qui nous soit possible de faire, c'est de rendre grâce à Dieu, de nous oublier nous-mêmes et dire Seigneur, que ta volonté soit faite et de le laisser lui agir. Et là, nous entrons dans la grande partie de l'anaphore, on peut appeler ça la préface, que j'ai évoquée, déjà un peu analysée hier, donc je ne vais pas m'apesantir dessus. Il est dédié juste de te chanter, de te louer, de te rendre grâce. Vous voyez toujours cette action de grâce, il n'y a que ça qu'on puisse faire, de t'adorer en tout lieu de ta souveraineté. Car tu es inexprimable, incompréhensible, invisible, insaisissable, toujours étant, toujours le même, toi, ton Fils unique et ton Esprit Saint. On respire seulement, on inspire la vie divine en nous. Toi, du non-être, tu nous as amenés à l'être. Tu nous as révélé, nous qui étions tombés, déchus. Tu nous as nécessité de te faire jusqu'à ce que tu nous aies élevé au ciel et nous aies fait don de ton royaume à venir. Il nous en a fait don. Il ne nous promet pas simplement de nous le donner. Le don, il est déjà fait à nous de l'accaparer, de l'embrasser, de le prendre. Nous te rendons grâce pour les bienfaits connus et inconnus de nous, manifestes et décachés, répandus sur nous. Nous te rendons grâce encore. Aussi pour cette liturgie. Non seulement on rend des grâces pour ce qui se passe au ciel, dans la liturgie céleste, mais on rend grâce aussi pour la liturgie terrestre. Nous rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu as daigné recevoir de nos mains depuis la proscomédie. Bien que tu assistes, alors que tu assistes déjà, et qu'on n'aurait pas besoin de nous, des milliers d'archanges, des myriades d'anges, les chérubins, les séraphins aux six ailes, aux yeux innombrables, se tenant dans les hauteurs, et les... qui donne l'hymne triomphal. Et là, je réévoque cette grande vision de Saint Jean dans l'Apocalypse, quand il voit le royaume des cieux ouvert, le Christ glorieux assis sur son trône de gloire, entouré par les quatre animaux de l'Apocalypse, décrits dans l'Apocalypse, de Saint Jean, de d'Ézéchiel et de Daniel, et avec toutes les puissances, la mère de Dieu et toute l'Église céleste qui est rassemblée là, ça c'est ouvert à nos yeux, le ciel est ouvert, il nous est possible de le voir, et qui entonne l'hymne triomphal, c'est-à-dire les anges, et nous entendons en même temps l'hymne triomphal, chantant, criant, clamant et disant, et avec l'astérisque, on fait sur le discos le signe de la croix, c'est-à-dire que cette vision là qui est la nôtre dans notre petite sphère terrestre sur notre petit autel se répand sur l'univers entier, et c'est une partie de la mission de l'Église de répandre justement cette vision dans l'univers entier, et on commence symboliquement par ce signe de la croix sur le discos. Et sommet en quelque sorte, mais nous allons de sommet en sommet, nous chantons, le chœur chante, les fidèles chantent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Sabaoth », c'est-à-dire qu'ils chantent en même temps et avec, et de la même voix, si je puis dire, que les puissances célestes, la gloire de Dieu, car eux chantent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Sabaoth », et nous associons notre voix à la leur, c'est-à-dire que nos deux liturgies, notre liturgie terrestre et la liturgie céleste, ne sont qu'une en deux endroits. Et je ne peux même pas dire en deux endroits, puisque non seulement le temps est télescopé, mais l'espace est télescopé. L'univers entier est présent, réuni là, avec l'univers céleste entier. Là, c'est une expression qui est malvenue, c'est pas juste de dire comme ça, mais c'est pour essayer de nous faire comprendre quelque chose. Et ce chant-là, Saint, 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 correspond à la fin de la liturgie de la parole, au chant du Trisagion qu'on chantait avec le fameux dynamis que l'on ajoute après la troisième, après le gloire au Père de la troisième invocation, puis la partie de consécration, mais je ne veux juste pas dire consécratoire, parce que tout à l'heure je dis justement qu'il n'y avait pas de partie consécratoire, et pourtant elle est exprimée comme ça. Avec ces bienheureuses puissances, donc avec ces bienheureuses puissances, nous aussi, maître philanthrope, nous clamons et disons, tu es saint, tu es soin, tout saint, toi ton fils dit qu'on est esprit saint, tu es saint, tu es déjà magnifique est ta gloire. Et la gloire de Dieu, elle se manifeste par les paroles après. Toi qui as tant aimé ce monde, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lui, et maintenant on fait mémoire plus exactement, je vous ai expliqué hier ce que c'est que le mémorial, on fait mémoire de ce que le Seigneur est venu accomplir un certain soir avant sa passion, et lui étant venu, ayant accompli pour nous toute l'économie, la nuit où il fut livré, avec sa permission, il est allé librement aussi, ou plutôt se livra lui-même, pour la vie du monde, ayant pris un pain dans ses mains saintes, pures et immaculées, ayant rendu grâce, béni, sanctifié, rompu, il donna à ses saints disciples et apôtres en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. On fait mémoire de la Sainte Cène à ce moment-là, mais de même que la Sainte Cène, pendant la Sainte Cène, le Seigneur donnait en sacrifice à manger pour se nourrir du sacrifice qu'il allait accomplir quelques heures plus tard. Inversement, maintenant, a posteriori, il nous donne à manger encore le même sacrifice, non plus à accomplir, mais déjà accompli. On est encore hors du temps. C'est un ensemble, c'est un instant unique. C'est le nœud de la création qui se joue à ce moment-là et auquel nous participons. Petite parenthèse, il y a une faute de français qui ne vous a sans doute pas échappé. Ayant pris du pain dans ses mains saintes, toutes pures et immaculées, ayant rendu grâce, béni, sanctifié et rompu, il donna à ses saints disciples et apôtres en disant, ce que vous savez. Il y a une faute de français, il manque un article. Parce que si on prend du pain, on le bénit, on le rompt, et on le donne aux disciples. Mais là, en grec et en slavon, les autres langues, j'en sais rien, et l'article le n'existe pas. C'est-à-dire que le Seigneur a pris du pain dans ses mains saintes, pures et immaculées, et il donna. Il donna quoi ? Il donna pas du pain. Il a pris du pain, mais il a donné son corps. Oui. Donc, il n'y a pas d'article. Et souvent, dans notre réflexe logique, rationnel, quand on transcrit ce texte-là, souvent, instinctivement, on ajoute « le » parce que sans quoi c'est illogique. Mais cet illogisme est important. Ça friserait l'hérésie de dire qu'il prit du pain et le donna. Non, il prit du pain et donna son corps. Vous voyez comme quoi l'importance de la finesse des traductions qui révèle une réalité théologique qui peut spirituelle ou mystique qui sinon passe complètement inaperçue. Même chose avec le sang, avec le vin et le sang. Ces paroles étant dites, et je le répète, ce ne sont pas des paroles consécratoires, mais qui sont résumées par faisant mémoire de ce commandement du Sauveur, Salvateur. Le commandement, c'est-à-dire de faire ceci en mémoire de moi. C'est exprimé plus violemment dans l'anaphore de Saint Basile que nous avons entendu ce matin. Mais le commandement du Sauveur, c'est d'accomplir ceci en mémoire de lui. Donc, faisons donc mémoire de ce commandement salvateur et de tout ce qui a été fait pour nous. Qu'est-ce qui a été fait pour nous ? La croix, le tombeau, la résurrection du troisième jour, l'ascension aux cieux et la session à ta droite et du second et glorieux avènement. Là aussi, il y a un mystère qui ne doit pas nous échapper. Faire mémoire, je vous ai expliqué hier que c'était rendre présent une action passée ou à venir, mais que mystiquement, on rend présent là, aujourd'hui, en nous, là où nous sommes. Donc nous voyons ici que nous faisons mémoire de la croix, logique, à peu près, du tombeau, encore, de la résurrection du troisième jour, on en est témoin, de l'ascension aux cieux, on en est témoin aussi. De la session à ta droite, ça c'est un pur acte de foi parce qu'on l'a prévu. Et du second et glorieux retour sur terre, du second et glorieux avènement. Ça n'a pas encore eu lieu. Et pourtant, on en fait mémoire. C'est-à-dire qu'on est rendu présent à ça aussi. Dans les textes liturgiques de l'ascension, il est dit, je ne me souviens plus par cœur, mais il est dit que nous sommes aussi avec le Christ, siégeant à la droite du Père depuis son ascension. Son ascension, c'est aussi la nôtre, puisqu'on est hors du temps et qu'on est en lui. Là où il est, nous sommes aussi. Et puisqu'il est déjà à la droite du Père, nous sommes aussi à la droite du Père. On en est indigne. Tout ce que vous voudrez, je ne le nie pas, mais nous y sommes. Notre salut n'est plus un salut à faire. C'est un salut qui est déjà accompli par le Christ, mais auquel il faut nous aussi participer. C'est déjà fait et c'est encore à faire. Comme la liturgie au début, bénis le règne, béni soit ou béni le règne. Un aspect de la vie chrétienne, c'est de prendre place là où nous sommes, d'apprendre par tous les dépouillements successifs que vous connaissez, par l'ascèse, la prière, les sacrements, toute la vie chrétienne, c'est d'apprendre à se délester de ce qui nous paralyse, de l'enfermement dans ce monde déchu, pour nous élever dans l'autre monde. Et c'est pour apprendre à réaliser, pas réaliser intellectuellement, mais à accomplir ce mystère déjà accompli de notre accession et de notre session en Christ à la droite du Père. Notre vie devrait être une unique contemplation du royaume des cieux, avec pas le souci mais avec la conscience du monde dans lequel nous sommes encore en même temps, que nous n'abandonnons pas pour autant, mais que nous élevons par la force de l'Esprit Saint, que nous élevons à cette hauteur, à cette élévation d'existence dans le royaume des cieux. Voilà le mémorial, notion, si je peux l'appeler notion, mais que l'on oublie, qu'on ne développe pas assez, on n'a pas assez conscience. Et l'invocation à l'Esprit Saint suit aussitôt, nous te faisons encore ce culte logique. Alors là, entendez bien. On traduit souvent ce culte spirituel, parce que le culte logique, c'est ambigu. Quand on entend logique, ben justement, c'est justement pas trop logique. Hein. Mais si, c'est logique en sens que ce n'est pas rationnel. C'est pas dit que c'est rationnel. C'est pas un culte rationnel, c'est un culte logique. C'est le culte du logos. Le culte de la deuxième, du Verbe de Dieu, de la deuxième personne divine. Culte logique et non sanglant. Et avec ça, nous implorons l'Esprit Saint, envoie ton Esprit Saint sur nous, d'abord sur nous, parce que c'est une question de foi, et sur les dons qui sont présentés, donc le pain et le vin, et fais ce pain corps de ton Christ et ce vin sang de ton Christ en l'échangeant par ton Esprit Saint. Ce qui montre bien que ce n'est pas le sacerdoce humain, les prêtres qui consacrent le pain et le vin en corps et sang du Christ, mais c'est l'unique Esprit Saint et le rôle de l'Église fidèle, éclairgée compris, c'est d'implorer l'Esprit Saint pour qu'il accomplisse la volonté de Dieu d'accomplir tout ce que nous savons et auquel nous participons. Maintenant, si je puis dire, la messe est dite. Maintenant, tout est accompli. La réunification de Dieu et de l'homme est accomplie. Nous n'avons plus qu'à rendre grâce à Dieu d'avoir accompli cela. Et maintenant, c'est la conclusion, si je puis dire. Conclusion importante et fondamentale. Mais ce n'est que la conclusion. On associe d'abord la Mère de Dieu. Il est digne de te bénir, Mère de Dieu. C'est grâce à elle qui est notre Mère. C'est grâce à elle qui engendre le Dieu dans la nature humaine. Et c'est grâce à elle que tout cela peut avoir lieu. Elle est, après qu'il y a eu notre Dieu qui se soit fait homme, elle est le premier homme à être devenu Dieu, par participation, par grâce. Elle est l'homme déifié. Et en elle, elle est notre mère, en ce sens que en elle, avec elle, partageant la nature humaine de son Fils, elle nous amène à ce salut qui est la divinisation des hommes. Elle est déjà divinisée, nous sommes encore dans l'attente de notre divinisation, qui pourtant, comme je vous l'ai dit précédemment, a déjà eu lieu, et c'est la raison pour laquelle on rend grâce à Dieu. Et une partie de notre péché, c'est de ne pas en prendre assez conscience, et de ne pas préserver cette richesse-là, et de la vilipender bien, bien souvent. Avec la Mère de Dieu à laquelle on rend gloire, Saint Jean-Baptiste, les apôtres, les saints, tout particulièrement ceux qu'on vénère aujourd'hui, on y associe encore ceux qui se sont endormis, nos défunts, on en cite quelques-uns, mais peu, mais c'est tous ceux qui ont été présentés, déposés sur le discos pendant la proche midi, sous la forme des parcelles qui ont été prélevées des prosphores. Et puis après notre action de grâce se répand sur la continuité de cela, après la Mère de Dieu, Saint Jean-Baptiste, les saints, les martyrs, les autorités de l'Église, les hiérarques, les prêtres, finalement les besoins de ce monde. Souviens-toi du monastère ou de la paroisse nous demeurons de toute ville et de toute contrée, de ceux qui voyagent par voie de mer sur Étonnazère, ceux qui portent du fruit, notre action de grâce, la réception de l'Esprit Saint qui est descendu sur nous, comme nous l'avons demandé, se répand avec nous sur le monde entier, et nous devons ouvrir nos bras pour inclure dans un unique amour ce monde entier dont on a soin, même si on s'en détache, comme nous l'avons dit. Et puis, après une nouvelle éthénie, qui ont leur importance, mais je ne veux pas vous fatiguer avec ces descriptions-là. Rends-nous dignes, Maître, avec hardiesse et sans condamnation, t'invoquer en tant que Père, toi le Dieu céleste, et dire, il faut avoir un sacré toupet pour parler à Dieu en l'appelant notre Père. Qu'est-ce que c'est qu'un père? Je sais que dans notre monde, tous n'avons pas la chance d'avoir une belle image du père. Nous sommes dans un monde déchu. Et même les pères les meilleurs d'entre nous sont encore une piètre image, excusez-moi messieurs, je ne veux pas vous humilier, mais une image tout de même encore édulcorée de ce qu'est véritablement le père céleste. Mais qu'est-ce qu'un père? Sinon, une profusion d'amour, une attention perpétuelle à ses enfants, un sacrifice perpétuel pour cela. Et appeler notre Dieu, cet être transcendant, indescriptible, aucun mot ne peut définir qui est Dieu. Nous osons nous l'appeler père. On pourrait dire, il faut avoir du toupet pour l'appeler papa. Je ne blague pas. C'est le mot qu'a utilisé le Christ sur la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Papa, Abba, entre tes mains, je remets mon esprit. Ce qui montre cette proximité, cette audace que Dieu nous donne, d'oser l'appeler papa, prêt à sauter sur ses genoux, si je puis prendre une expression de ça, et l'embrasser d'amour pour nous fondre en lui, pour essayer de nous faire cajoler, être serré dans ses bras. Évidemment, je fais de l'anthropomorphisme, je ne prétends pas que Dieu ait des bras, mais il a un amour, lui, qui dépasse de beaucoup cela. Et à ce moment-là, nous, ayant cette audace-là, nous pouvons effectivement dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié » et la suite que vous connaissez. Et on arrive ensuite à l'avant-communion, si je puis dire. Il y a un rite, le prêtre prend les saints dons, l'agneau maintenant consacré qui est sur le discos, l'élève légèrement en disant les choses saintes, ce qui est saint au saint, un seul saint, on répète, on ajoute, un seul Seigneur Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père, Amen. Et après quoi, le prêtre partage en quatre l'agneau qui, rappelez-vous, avait été mis en dessous pendant la proscomédie et incisé en quatre parts, et sépare les quatre parts, rompt le pain, en disant, et rompu et partagé l'agneau de Dieu, c'est la transfiguration, l'aboutissement de ce qui avait été préfiguré dans la proscomédie, et qui elle-même figurait tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Là maintenant, l'agneau est découpé, rompu et partagé, mais pas divisé. Chaque parcelle, si minime soit-elle, est le corps du Christ tout entier. Que ce soit ici ou que ce soit aux antipodes, que ce soit maintenant ou que ce soit à l'autre extrémité du temps chronologique dans lequel nous vivons. Et ayant et une de ces parcelles-là, une des quatre parcelles, est prise et versée dans le, déposée dans le calice où est le précieux sang, ce qui montre bien que corps et sang sont, sont une même personne. Et le corps du Christ représente, pas symboliquement, mais signifie, si vous voulez, signifie la nature même de la nature humaine du Christ à laquelle on est fait participer. Et le sang c'est le principe de vie, c'est la vie même du Christ. C'est-à-dire la vie, si je peux dire, même historique, ses tentations, ses souffrances, ses prophéties, tout cela, c'est la vie du Christ, vie que nous partageons. Et nos souffrances, nos tentations, nos victoires, nos émotions spirituelles, tout ça, c'est la vie même du Christ. Et on lui demande de partager sa vie. Et alors après, lorsque nous-mêmes nous sommes sur la croix, lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes tentés, ne nous plaignons pas, c'est ce que nous avons demandé. Nous voulons partager sa vie. De fait, ce n'est pas une vanne, de fait, nous partageons sa vie. De manière à ce que nous prolongions sa vie sur terre, que nous manifestions encore sur terre sa présence, devenu invisible depuis son ascension au ciel, mais que nous poursuivons nous et dont nous témoignons pour le monde. Il est mort martyr et nous aussi nous sommes des martyrs. Lui était témoin de la gloire de son Père et c'est pour cela qu'il acceptait dans sa kénose de mourir ignominieusement sur la croix. Et nous-mêmes, nous sommes les témoins de l'agneau, nous sommes les témoins de la gloire de Dieu par toute la vision que nous avons eue dans la liturgie. Et ces témoins, nous sommes prêts à être martyrisés, pas simplement tués par les ennemis de l'Église s'il y en a, mais martyrisés dans notre cœur par toutes les épreuves par lesquelles nous passons, y compris par nos échecs personnels. Pour lesquels nous ne sommes peut-être pas complètement innocents, mais qui effectivement sont des échecs et qui semblent nous coûter cher, mais qui sont à accepter aussi dans le sens de ce martyr pour rendre gloire à Dieu. Et ceci étant accompli, le prêtre prend encore dans un récipient de l'eau chaude, plus ou moins bouillante, et la verse, après l'avoir béni, la verse dans le calice. Il y a deux significations à cela. D'une part, le sang auquel nous allons communier est un sang vivant, donc c'est un sang chaud. Donc, on met de l'eau chaude dans le calice pour signifier cette vie qui est à l'intérieur du sang auquel nous communions. Il y a une deuxième signification, c'est que l'eau chaude, c'est une manifestation d'une union de deux natures en une seule, c'est-à-dire de deux natures, la nature de l'eau, H2O, et la nature du feu, qui sont unies. Comme les deux natures du Christ, nature humaine et nature divine, qui ne font qu'une personne. Comme notre nature humaine, transfigurée par l'union avec la nature du Christ, qui fait de nous des hommes divinisés. C'est donc le zéon, cette eau chaude, est incorporée dans le sang du Christ, montre bien que, comment dire, la communion communication des idiomes, la communion entre nos natures, Dieu et homme. Deux natures en Christ et notre nature nous avec celle du Christ. Ce rite-là est pour le monde occidental un véritable scandale, parce que une certaine conception rationnelle encore du saint sacrifice fait qu'on ne peut pas, par pureté, ajouter quelque chose au calice déjà consacré. Donc, il ne faut surtout pas mettre d'eau chaude dans le calice. Et je ne voudrais pas humilier nos amis et frères roumains, mais dans certaines régions de Roumanie, très influencées par le catholicisme hongrois, quand ils ont gardé le rite byzantin, ils gardent le rite du zéon, mais au lieu de verser le zéon dans le calice, ils en font un deuxième lavabo et se lavent les doigts avec en signe de purification. C'est pas idiot, mais ça n'a plus le sens du rite. Vous voyez pourquoi il y a une contamination. Mais je n'ai jamais vu Père Emmanuel faire ça. Hein. Il pouvait lui faire confiance pour l'instant encore. Il n'est pas de cette région-là, de toute manière. Mais...
je ne suis pas excommunié tout de suite.
Vous n'êtes pas encore excommunié tout de suite, non. Voilà pour le rite du Zéon. Et après, la communion, qui est ce partage de la Sainte Seine, où, après avoir vécu tout cela, on l'intègre, on l'assimile, ou plus exactement, assimiler, on l'a déjà fait, mais on s'en nourrit. Et quand on se nourrit de nourriture, excusez-moi de l'expression, c'est pour croître, pour devenir peu à peu ce qu'est cette nourriture. Et comme nous n'avons, hélas, pas la faculté de changer tout de suite de notre état déchu à l'état glorifié, il faut alimenter petit à petit notre être, comme on alimente le corps d'un enfant pour qu'il devienne un adolescent, puis un adulte, puis un vieillard. Je vous dirai la suite dans quelque temps. Par cette liturgie, vous voyez ce qu'est la transfiguration du monde. Effectivement, tout est prosaïque, si je puis dire, c'est peut-être pas le terme, mais tout est très, très matériel. On mange de la nourriture, on mange du pain qui est le corps du Christ. Mais quel pain ? Quelle nourriture ? Une nourriture qui nous fait croître, comment ? Pas pour nous acquérir des cellules supplémentaires ou réparer les cellules qui s'en vont, qui s'envolent à une vitesse grand V, mais pour découvrir un autre monde, ce monde spirituel. Enfin, je n'ose pas trop dire, je ne devrais pas dire ce monde spirituel, parce que beaucoup de religions cherchent un monde spirituel, c'est-à-dire un monde de l'au-delà, si vous voulez, qui existe réellement d'ailleurs. Mais nous, notre but, ce n'est pas d'entrer dans un monde spirituel, c'est d'entrer dans le monde divin. C'est d'entrer en communion avec Dieu et avec tous ceux qui sont unis à Dieu. C'est bien autre chose que de découvrir une vie spirituelle. Voilà, j'arrête là l'explication. Après, ce sont des prières que vous connaissez, des prières d'action de grâce, de supplication. C'est la mise en application, si vous voulez, de ce que nous avons vu. On ressort de l'Église les yeux et le cœur pleins d'émerveillement. Et vous ne le voyez pas, moi non plus, je dois vous avouer. Mais s'il nous était donné... Mais nous sombrerions immédiatement dans l'orgueil, dans l'autosatisfaction. Il nous était donné de voir la réalité des choses. Mais quand on sort de l'Église, on ne verrait plus des hommes et des femmes, des enfants et des vieillards. On verrait des cierges, on verrait des lumières. Nous sommes véritablement devenus des lumières. C'est-à-dire des reflets de la lumière divine. Ce n'est pas une image, c'est une réalité. On est aveugle, on a des lunettes noires devant les yeux qui nous empêchent de voir la réalité. Mais la réalité, c'est cela. Et nous avons des témoignages, de nombreux témoignages dans l'Église, de saints qui ont été suffisamment purifiés, justement, à la fois par leur collaboration et à la fois par la puissance du Saint-Esprit, qui ont vu cette réalité-là. Je pense que c'était le cas d'un père Emilienos, par exemple. Je n'ai pas le témoignage personnel de manière directe sur cet aspect-là, mais je pense. Et pas le seul, il y a de nombreux exemples dans l'Église. À ceux-là a été donné le pouvoir de voir la réalité. À nous, le pouvoir n'est, pour certains d'entre vous peut-être, mais pour moi, il n'a pas été donné. Mais nous ne nous en plaignons pas. Ne nous jugeons pas, on peut se juger indigne, bien sûr, mais ce n'est pas uniquement par indignité, c'est parce que l'Église, elle est composée de milliards d'hommes qui ont chacun un ou des charismes. Certains, les saints dont je parle juste avant, certains ont ce charisme donné par Dieu de voir la réalité, les réalités spirituelles et de voir les fidèles illuminés quand ils sortent de l'Église. D'autres ont le charisme du martyr. C'est pas moins bien. Ils voient rien, mais ils croient. Ils ne voient rien, mais ils aiment. Ils aiment tellement qu'ils donnent leur vie. D'autres ont d'autres charismes, le charisme de l'organisation, le charisme de la parole, le charisme de la liturgie, de la célébration. Chacun a son charisme. Les uns voient des miracles, les autres les voient pas. Les uns ont une vie douloureuse, les autres ont une vie apparemment glorieuse. Mais pour aucun d'entre nous, les charismes sont pour notre utilité personnelle. Les charismes, c'est un témoignage pour l'Église. Si Gueronda Emilienos était ce saint prestigieux qui n'est pas encore révélé comme il le faudrait et comme il le sera peut-être un jour, ce n'est pas pour son bénéfice personnel, c'est pour le témoignage de l'Église, c'est pour ses enfants, au large, sens large du terme, pour ses enfants qui ont besoin d'avoir un père comme ça, qui leur montre le chemin, qui leur donne le témoignage que ce à quoi on adhère est la réalité. Tout le monde n'a pas le charisme du martyr. Et les martyrs ne sont pas uniquement martyrs pour eux-mêmes. Ils sont martyrs aussi parce que, comme dit encore, j'y reviens, Saint Jean dans l'Apocalypse, ils sont les témoins de l'agneau. Et l'agneau étant lui-même martyrisé, ils ont martyrisé d'amour avec cet agneau, pour que les hommes d'aujourd'hui voient encore l'agneau souffrir sur la croix et ressusciter, pour ressusciter avec lui. À lui sur la gloire, dans les siècles des siècles. Une petite communication des analyses telles que vous venez de l'entendre hier et aujourd'hui. Il en existe beaucoup, toutes avec des charismes différents, pour reprendre le terme précédent. Tous sont des nuances, évidemment, importantes, voilà, un aspect, des aspects ou d'autres. Et je voudrais vous donner deux ou trois titres, non pas pour que vous fassiez de l'étude de la liturgie un travail intellectuel, ce n'est pas dans cet ordre-là, mais si vous voulez approfondir ou revenir de temps en temps pour réchauffer votre cœur sur la signification de la liturgie, je vous donne quelques titres. Un petit opuscule assez récent, tous les titres se ressemblent évidemment, et vous allez bien comprendre pourquoi. Il faudrait que je vous parle après de excusez-moi. Et qui est de quelqu'un que vous connaissez, Job Getcha, qui est Monseigneur Job, qui est venu célébrer deux ou trois fois chez nous, qui se trouve maintenant en Asie mineure, évêque là-bas, et qui avait écrit un petit opuscule très très bien fait, La Divine Liturgie Byzantine, aux éditions Mimesis. C'est un des meilleurs que je connaisse, parce que c'est très, très succinct, très clair. Il évoque beaucoup de choses dedans, mais d'une manière qui passe toute seule. Il y a un deuxième qui est un peu plus ancien. Il est écrit par un écrivain russe, Nicolas Gogol, G-O-G-O-L. Et le titre, c'était aussi sorti en opuscule, mais je pense qu'on ne le trouve plus. Il me semble que ce texte-là, sauf à le trouver par, dans des vieilleries, enfin dans des... en occasion, merci, qui s'appelle « Méditation sur la divine liturgie ». On le trouve maintenant facilement dans les œuvres complètes, dans ses œuvres complètes, dans le numéro 185 de la collection La Pléiade. Mais c'est des gros livres et un petit peu cher. Alors essayez de trouver, à moins que vous vous intéressiez à Gogol, ce qui vaut la, il vaut la peine d'ailleurs d'être digne d'intérêt. Mais si vous voulez uniquement l'explication sur la divine liturgie, essayez de trouver d'occasion le... Nous avions, nous, un bon nombre d'occasions, mais à force de le prêter, je les recherche infructueusement. Un autre, encore plus ancien, de Saint Cyrille de Jérusalem, dans les catéchèses mystagogiques. Vous le trouvez dans le Sources chrétiennes, au numéro 126 de Sources chrétiennes. Publié en 1988, je crois.
Quel numéro ?
186. Non, 126. Si je lis bien, ça doit être 126. Mais c'est moi qui ai écrit, alors je ne suis pas sûr. Un autre, plus récent, d'Alexandre Schmemann, un classique aussi. L'Eucharistie, sacrement du royaume. C'est aussi fulgurant. Mais tous, ils sont complémentaires. Mais aucun n'amène quelque chose de radicalement nouveau. C'est toujours la même chose, mais sous des éclairages différents. Père Dominique me faisait remarquer, hier ou ce matin, qu'une expression à lui, par exemple, que ce ne sont pas des parcelles que l'on dépose sur le discos, ce sont les personnes elles-mêmes qui sont déposées sur le discos. C'est pas différent de ce qu'on a dit, mais l'expression... est percutante, elle est parfaitement, parfaitement juste. Encore que c'est à travers des parcelles. C'est encore de la matière transfigurée. Vous avez un autre titre contemporain aussi de Henrik Paprocki qui s'appelle Le mystère de l'Eucharistie. Genèse et interprétation de la liturgie eucharistique, aux éditions du CERF en 1993. Un, qui n'est pas par les autres, mais qui est un sommet aussi, mais tout cela que je vous dis, ce sont des sommets, de Nicolas Cabasillas, par l'explication de la divine liturgie. Vous le trouvez aussi dans la collection Sources chrétiennes. Le numéro 4, 4 bis, c'est-à-dire la réédition du numéro 4, tout simplement. En 2015, le hiéromoine Grégoire a publié La Divine Liturgie de Saint Jean Chrysostome, commentaire à la lumière des Pères de l'Église, aux éditions du CIRT, des CIRT, pardon. Je peux vous en citer 25 autres. Et remarquable, remarquable, oui, oui. Mais lisez-les pour échauffer votre cœur, mais ne les lisez pas pour faire une étude. La liturgie ne s'étudie pas, la liturgie se goûte. Prenez un bon Bordeaux, ou un bon Bourgogne, parce qu'il y a peut-être des bourguignons là, hein. Et prenez un bon vin, et faites l'analyse, ça, ça a goût de framboise, ça, on sent le pied de vigne, là, on sent une terre calcaire. C'est bien, c'est intéressant, si vous voulez devenir œnologue, Mais l'œnologie ne veut rien que ne vaut rien, sinon pour ceux qui savent goûter le vin et qui, quand ils le mettent dans leur gosier, se réjouissent du goût que ça a. Et là, ils voient tout un ensemble, ils n'analysent pas simplement, là, il y a telle odeur, telle odeur, ça c'est des subtilités qui ne sont pas inutiles, mais ce n'est pas ça le but du vin. Et encore, je n'ai pas été jusqu'à vous parler de l'ivresse que provoque le vin, comme la liturgie qui nous provoque une véritable ivresse aussi, l'ivresse de ceux qui sont qui ont accédé à la, qui ont accédé au jardin, au jardin du Cantique des Cantiques, où l'époux et l'épouse s'enivrent l'un et l'autre des joies des épousailles. Et la liturgie, c'est pour nous les épousailles avec le Christ. C'est comme ça qu'il faut la goûter. Est-ce qu'il y a quelques questions?
J'avais envie de dire une chose, c'est tout au début, vous avez parlé des enfants qui jouent et qui n'ont pas conscience de quoi que ce soit, dans la liturgie, etc. Je peux vous dire que j'ai fait une expérience à l'âge de 6 ans.
6 ?
6 ans. Quand le prêtre a élevé, j'étais catholique romaine à l'époque, l'Eucharistie, le calice, j'en ai encore les larmes aux yeux en vous le disant. Après... j'étais transportée vraiment littéralement et j'ai senti vraiment cette présence invisible en tant que petite fille. Et après, moi, dans mes jeux, tous mes jouets, mes poupées, je les offrais comme ça.
Ah oui.
Et c'est pour ça que je pense qu'un enfant à 6 ans,
ah oui, oui, oui,
peut avoir cette intuition et cette relation magnifique, mystérieuse avec Dieu.
Ah oui.
Il y a pas d'âge en fait.
Ah oui. Et à tous âges, mais d'une manière différente.
On ne sait pas ce qui se passe.
Exactement.
C'est extraordinaire.
C'est dans l'ordre de l'être, de l'existence. Oui. C'est pas dans l'ordre uniquement de la conscience.
Oui.
Ah oui. Autre réflexion, question, oui.
Faisons mémoire de tout ce qui a été fait pour nous, la croix, le tombeau, la résurrection du troisième jour, l'ascension au ciel, le siège à la droite, et le second et glorieux avènement. C'est exactement ce qu'on dit dans la partie christologique du credo.
Oui.
Et on en fait mémoire, et c'est une des raisons pour lesquelles le credo, on ne peut pas dire qu'il reviendra en gloire, mais qu'il revient en gloire. Et à ce sujet, c'est le problème du temps, la relativité du temps. Et alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai beaucoup aimé ce que disait Constantin Andronikov, qui séparait carrément le temps terrestre, le chronos terrestre, et le temps terrestre, le kéros céleste, qu'il appelait également le présent éternel. Et dans la liturgie, nous ne sommes pas dans le chronos, nous sommes dans le kéros divin, qui est le présent éternel. Et c'est pour ça que le Christ revient en gloire juger les vivants et les morts, et non pas reviendra. D'ailleurs, en grec, c'est palinarkomenos, qui est un participe présent.
Tu m'as fait peur, c'est pour ça qu'aussitôt je suis allé voir dans notre traduction pour voir comment c'était, mais c'est bien effectivement traduit qui revient en gloire. Ouf. Mais c'est juste, c'est juste. Et c'est, tu l'as mieux exprimé, mais c'est ce que je voulais dire tout à fait au début, quand le diacre dit, c'est le temps d'agir pour le Seigneur. C'est pas le chronos, c'est le kéros.
Oui, je n'ai pas fait la réflexion hier, parce que j'ai été très longtemps diacre de Père Boris, et Père Boris nous demandait de dire, voici pour le Seigneur le temps d'agir.
S'il vous plaît.
C'est pas faux, mais c'est
incomplet. Il faudrait dire bien.
Et c'est un ajout, si je puis dire, qui finalement n'ajoute rien au mystère et la vérité, au contraire, qui fait un choix, un tri. Donc je lui laisse la responsabilité de ces...
Non, mais ça veut dire que le père Boris, il dit que c'est le Seigneur qui agit.
Oui.
C'est ça. C'est pas nous qui agissons
non,
pour,
non,
le Seigneur,
pour le Seigneur.
C'est le
temps
Seigneur
de
qui agit. Voilà. Oui. C'est lui qui, c'est le moment où le Seigneur va agir.
Exactement.
C'est ça que ça signifie.
Oui.
Je voulais poser une question. Pourquoi est-ce qu'à la fin du credo, on dit le siècle à venir ? Pourquoi le mot siècle ? Ça vient d'où ça ?
Le siècle, c'est les... C'est un temps transfiguré. C'est dans le nouvel éon. Les éons, pas le éon de l'eau chaude, hein, mais les éons, c'est d'autres mondes. Mais là, il faudrait demander aux philosophes et aux théologiens que je ne suis pas de vous expliquer ce que sont les éons. Les éons, c'est des univers encore nés. Ce qu'on appelle le royaume des sujets, ça fait partie des éons. On a des mots comme ça pour expliquer des... Hein?
On n'a pas les mots en français.
On n'a pas les mots français.
Les Grecs,
ni
ils
des...
ont le chronos, ils ont l'eschaton, ils ont l'éon. Mais nous, on a le temps, le présent, le siècle. On essaie de dire, mais on n'a pas le mot.
Ça ne veut pas dire le 22e ou le 23e siècle.
Christ ou Céonas,
Tonéon, c'est vraiment les...
Dans l'orthodoxe à Paris, là, ils parlent du monde à venir. Ils disent le mot monde, eux. Nous, on dit le mot siècle.
Le siècle se rapproche davantage de la notion de éon.
Éon.
Que le monde à venir. Mais
c'est pas parfait.
Il n'y a pas de perfection dans ce... On essaie de prendre les mots les plus approchants ou quelquefois les mots les plus compréhensibles. Mais avant de prendre, à mon avis, il faut mieux prendre des mots difficiles à comprendre mais que la catéchèse permet d'expliquer aux gens, comme on essaie de le faire maladroitement tout de suite, plutôt que de rabaisser toujours un vocabulaire de plus en plus horizontal, de plus en plus compréhensible. Mais à ce moment-là, on perd de la dimension de la réalité.
C'est ce qui faisait dire à Saint Sophronie, d'ailleurs, à ses disciples. Il disait, mais c'est quand même pas très compliqué d'apprendre une langue. Apprenez donc le grec, et puis et puis le problème est réglé.
Il est bien mignon, mais moi, j'ai jamais réussi. Alors...
Pour lui, ça paraissait assez simple.
Non, mais ce qui est vrai, quand on va voir un médecin, quand il nous sort des mots incompréhensibles, vous êtes atteint de comprend, eh ben, on va voir dans le dictionnaire, on regarde ce que c'est, on apprend, on lui pose la question et ça, et on intègre ce vocabulaire-là. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec le vocabulaire théologique, justement ?
Exactement.
Les fidèles, j'arrive, les fidèles... On essaie, ici, partout, mais on essaie. On pourrait presque demander aux enfants, peut-être pas à Clotilde encore, mais enfin, presque tous savent ce que c'est que la kénose, ce que représente la kénose, par exemple. Et ça, c'est des mots que vous ne trouvez pas dans le journal Le Monde ou dans les pieds nickelés. Non, attends, il y avait quelqu'un, oui, pardon.
Dans le même temps, dans le credo, on dit selon les Écritures. Donc on dit selon les Écritures. Donc on raconte une histoire, quelqu'un qui nous a dit, et selon ça, nous on croit à ça. Mais donc il reste un conflit dans croire en ça ou non. Est-ce qu'il y a une autre signification? Ils ont mis cette phrase selon les Écritures.
Non, c'est les Écritures, c'est l'Ancien Testament, évidemment. L'Ancien Testament et la continuité avec le Nouveau Testament. Donc, dans les Saintes Écritures sont aussi inclus les quatre évangiles, les épîtres. L'Apocalypse n'était pas encore reçu à ce moment-là dans l'Église d'une manière canonique. Et puis, les explications données à la suite par les apôtres et puis après par les églises. C'est tout ça, les saintes Écritures. Et conformément à ça, conformément à ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, le Christ vient l'accomplir et le révéler. Dans les Saintes Écritures, il est dit, après la chute d'Ève, que la mère des vivants enfantera un fils, et le serpent l'atteindra au talon. C'était
la semence de la mère des vivants.
C'était la prophétie que le fils de la femme, la semence d'Ève, le fils de la mère de Dieu, donc le Christ, fils de Marie, sera atteint au talon par le tentateur, par le démon, qui l'amènera jusqu'aux portes du découragement et qui l'amènera jusqu'à la mort assumée. Mais celui-ci lui écrasera la tête du talon, c'est-à-dire vaincra le démon en ressuscitant et en nous ressuscitant et en nous sauvant. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être ressuscité, il faut encore être sauvé. La résurrection n'étant qu'un passage, si je peux dire, obligatoire d'ailleurs.
Oui. J'aurais aimé que tu dises un tout petit mot sur quelque chose qui me paraît très important, tant du point de vue de la proscomédie que de la finale, si j'ose dire, de la divine liturgie, qui est le fait que toutes les parcelles des vivants et des défunts sont versées dans le calice avec la mère de Dieu et tous les saints en disant « Lave, Seigneur, par ton sang précieux, les péchés de tes serviteurs ». Pour moi, c'est l'apothéose de la proscomédie.
Merci de le dire. Merci de le dire. Je voulais l'évoquer. Parce que là, il y a une querelle intra-orthodoxe. Père Dominique fait allusion après le Zéon, quand on a partagé l'agneau et qu'on l'ait versé dans le calice, qu'on ait versé l'eau chaude, on coupe un deuxième quart de l'agneau pour distribuer pour la communion des prêtres et des diacres à l'autel, et le reste est coupé normalement dans l'église ancienne. On fractionnait, on faisait des petits morceaux comme ça. Mais finalement, ça fait de la bouillie et c'est quelquefois difficile à distribuer avec la lancette, c'est-à-dire avec la pincette, la cuillère. Et on préfère maintenant, pour une question pratique, couper avec la lancette. Ça fait des cubes plus homogènes, si vous voulez. Ça évite de donner de la bouillie en communion, si vous voulez. C'est une question pratique. Et une fois que le clergé a communié, on reprend. Alors là, il y a deux traditions, et là, il y a une opposition, quelquefois vive, j'en ai souffert quelquefois, où, avant la communion des fidèles, on prend toutes les parcelles qui viennent d'être fractionnées, ainsi que la parcelle pour la Mère de Dieu, les parcelles des saints et les parcelles pour les morts et les vivants inclus dans le calice, dans le précieux sang, alors que d'autres surtout ne veulent pas ça, parce que les parcelles n'étant pas l'agneau, sont considérés comme n'ayant pas été consacrés, donc se serait faire communier les gens à du pain et non pas au corps du Christ. Et dans des paroisses où il m'est arrivé de célébrer, les prêtres me laissaient toute latitude pour célébrer comme je voulais, mais là, ils étaient présents, et surtout, vous mettez bien les parcelles qu'après, mais sévère, hein, si on... dur. Après la communion, quand tous les fidèles ont communié, à ce moment-là, ils mettent les parcelles dans le calice. Mais à ce moment-là, c'est de nouveau chosifier les pains. Pour nous, d'une part, tout ce qui est sur le discos a été consacré, l'agneau, et ceux qui sont les témoins de l'agneau, la mère de Dieu, les anges, les saints, tout ça sont...